Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Rancière qui chaque semaine vous permet d'entendre la parole de notre évêque Monseigneur Philippe Christori. C'est Christophe Jubien qui vous accueille aujourd'hui. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe.
Si nous reparlions un peu de l'année 2020, une année qui à cause du virus a totalement modifié les comportements sociaux d'une partie de la planète, est-ce que faut-il en penser finalement de cette modification quasi universelle, hein. Peu des pays ont échappé à la Covid.
Oui, c'est un événement planétaire. C'est un peu curieux, c'est que l'impression, c'est que c'est quand même les pays développés qui ont le plus été atteints et qui continuent à l'être. Enfin, dans les pays d'Afrique que je connais un peu, le Burkina par exemple, il y a très peu de cas.
Très peu de cas.
Touchés. Donc on est d'abord très touchés, nous. Planétaire, parce qu'effectivement, on se rend compte que les frontières pour ce genre de virus, maintenant, n'existent pas, en fait. Ça passe toujours, d'une façon ou d'une autre. Par contre, on a vu des comportements très différents. On a vu des comportements... la Chine, on a l'impression qu'ils ont agi par la force, hein, ouais. La dictature terrible, un pays qui contraint les citoyens, donc... Ils les ont enfermés, quoi. Donc, ça a eu des effets peut-être efficaces, mais on a une autre forme de vision de la relation politique, du rapport aux autres. Et donc, nous, c'est vrai qu'il y a un peu plus de flou. Ça vient, ça repart, ça s'arrête, ça recommence. Mais c'est aussi le prix de la liberté et de la démocratie. Hein, le prix de notre liberté de pouvoir s'exprimer, ne pas comprendre, dire des choses, nous déplacer. Enfin, il y a aussi cette liberté qu'il faut absolument maintenir, quitte à... payer une forme de tribut à ce virus. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que nous avons la foi, nous sommes chrétiens, donc la mort n'est pas forcément la peine maximale. C'est un passage, c'est aussi une espérance d'une vie après la mort. Donc on peut le vivre aussi un peu sereinement, je pense, autant que nos sentiments le permettent.
Une conscience planétaire est-elle née pendant cette pandémie? Le père Teilhard de Chardin avait prédit l'avènement de ce qu'il appelait la noosphère, c'est-à-dire une couche pensante humaine de la Terre, où, je le cite, hein, chaque élément perçoit, voit, sent, désire et souffre les mêmes choses que tous les autres à la fois. En résumé, dit-il, une collectivité harmonisée des consciences. C'est pas un peu ce qui se passe, non ?
Moi, je crois que ça me paraît un peu un rêve quand même, hein, parce que se sentir, désirer, souffrir avec les autres, oui, c'est beau, c'est merveilleux, mais il y a aussi beaucoup d'égoïsme, beaucoup de tensions. On voit plutôt des gens qui mettent des murs, quoi, aujourd'hui. Donc c'est peut-être pas forcément le souhait de tout le monde, mais ça serait peut-être bien qu'on soit plus solidaires. Et le pape qui a écrit sur la fraternité, je pense, a bien raison. C'est un besoin très profond de l'homme que d'être en harmonie, au moins, être frère de son frère.
Oui, parce que je me disais, on a vu... finalement, la pandémie nous oblige à penser peut-être les choses au niveau planétaire, non ?
Il y a une entraide possible. Ouais. Alors... une entraide au sens que, par exemple, les vaccins sont fournis par quelques pays et on a essayé de, en tout cas pour l'Europe, de réguler la répartition des vaccins sur l'ensemble des différents pays. Donc oui, il y a une conscience quand même qu'on n'est pas seul au monde et qu'ensemble c'est mieux. Après, la limite de ça, c'est que dans le cœur de l'homme, malheureusement un peu blessé, il y a quand même l'idée que je vais répondre d'abord à mes besoins avant ceux des autres.
Ouais. Alors, malgré tout, est-ce que ce malheur qui nous frappe a, selon vous, si j'ose dire, de point, ouvrez les guillemets, un bon côté. Est-ce qu'il y a un bon côté des choses dans toute cette affaire?
Alors, oui, j'ai un point de vue qui est personnel, peut-être qu'on ne partagera pas. Moi, je pense que d'abord, ça nous a amené à plus de modestie, voilà, notamment par rapport aux affirmations scientifiques, hein, la science toute puissante, la science qui a le dernier mot sur tout, bien, peut-être plus de modestie. Je pense que ça a appelé aussi, dans nos confinements, à réfléchir à nos désirs profonds. Au fond, qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre profondément? Au lieu de surfer sur une sorte de société de consommation, un peu d'étourdissement aussi par les loisirs. Et puis j'espère effectivement que ça a suscité dans les quartiers ou entre nous, et dans l'Église particulièrement, plus d'échanges et de fraternité. En tout cas, on s'est rendu compte qu'il fallait faire ce pas vers l'autre, volontairement, pour créer cette fraternité. Donc il y a un bon côté.
Ouais. Et puis on a moins consommé, même si effectivement, peut-être qu'Amazon a tiré son épingle du jeu, mais malgré tout, dans l'ensemble, je pense qu'on a moins consommé. On a moins consommé de carburant notamment, et puis on a mieux respiré, par exemple, au printemps.
On a mieux respiré, et puis on s'est rendu compte que satisfaire... profiter de production locale pour la nourriture était quand même au fond un bon choix plutôt que de dépendre du bout du monde. Donc ça a pu aussi créer des nouvelles façons d'envisager sa consommation. Ouais. et aussi qui est près de chez moi. Moi je sais que j'étais très touché par exemple d'aller au marché fermier de Nogent-le-Fay parce que j'ai vu les producteurs locaux, et au fond, j'étais content d'acheter à ces gens-là, même si le prix était peut-être plus cher qu'en magasin.
Oui, mais c'est meilleur.
Bien meilleur.
Y a-t-il une façon spécifiquement chrétienne, finalement, d'aborder ce moment historique ?
Oui, moi je pense qu'on est appelé comme chrétien à espérer. L'espérance, c'est un beau mot. Ce n'est pas seulement l'espoir humain, c'est vraiment avoir la lumière qui vient du Seigneur, qui est aussi qu'après la mort, il y a une vie, donc la mort est un passage, elle a une gravité, parce qu'on perd un proche, mais ce n'est pas le tout de la vie. La vie continue après. Responsabilité par rapport aux autres aussi, se dire ma vie, je suis un... Bien sûr, j'ai mon autonomie comme être humain, mais je peux... où je dois être attentif à ma façon dont je me relie aux autres pour ne pas transmettre, par exemple, le virus, mais au contraire, être proche tout de même pour répondre à leurs attentes d'affection, de peut-être de besoins pratiques aussi. Enfin, en tout cas, nous sommes dans la main de Dieu. Et ça, c'est la force de la foi.
Ce qu'on a pu voir aussi, c'est la panique s'emparer quand même des hommes. Moi, j'ai le sentiment que l'homme du 21e siècle est plus soucieux de la survie de son corps, vous m'excuserez de le dire, plus soucieux de la survie de son corps que du salut de son âme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors l'âme, c'est pour nous une réalité aussi prégnante que le corps. C'est le principe de vie qui est en nous. Ce qui différencie d'ailleurs un corps qui est vivant d'un cadavre. Hein, c'est que... En tout cas, peut-être que certains se sont concentrés... Alors, c'est le cas des hôpitaux et autres, ou même des politiques, on a voulu apporter un soin au corps. Donc, on a protégé le corps, les masques, le gel, etc. Mais on a trop peu pris soin du besoin spirituel, du besoin de l'âme. Et on a vu ces gens qui plongeaient dans la tristesse, la dépression, voire le suicide. Pourquoi ? Pas parce que leur corps ne marchait pas bien, ou pas assez bien, mais parce qu'il y avait un vide sidéral intérieur. Donc, nous, chrétiens, nous essayons de tenir les deux. Il faut, le corps est un cadeau, le corps est un don. Il est précieux, notre corps. Nous sommes aussi un corps, mais nous sommes un corps et une âme. Et c'est les deux ensemble, dans cet équilibre, que nous trouvons notre équilibre, notre capacité à vivre, notre capacité à être en relation.
Ouais. La relation, c'est la base de la religion chrétienne, entre le Père, le Fils, l'Esprit... Le oui, corps, l'âme et l'esprit, on s'est aperçu que finalement on avait un besoin absolu de relation pendant cette temps.
C'est-à-dire que la Bible nous révèle que Dieu est à la fois un seul Dieu, mais un Dieu en relation, d'abord en lui-même, il est en relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il rentre en relation avec nous par Jésus et par le don de l'Esprit Saint, et que nous sommes à son image. Donc étant à son image, nous sommes appelés à être en relation les uns avec les autres dans sa lumière à lui. Et si on n'est pas en relation, au fond, on n'accomplit pas notre humanité. On a une bouche pour parler, des oreilles pour s'entendre, pas juste pour pousser des cris et écouter un ennemi qui viendrait. C'est au contraire pour rentrer dans une relation de communion, d'harmonie, d'amour avec les autres. C'est absolument nécessaire. Sans relation, on est mort, en fait.
Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le Christ nous met en garde. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Or, le pape François nous met en garde contre un virus tout aussi mortifère que la Covid. C'est le virus de l'indifférence qui, lui, s'attaque à l'âme.
Oui, alors le pape François a toujours des expressions très fides, au fond, parce qu'il parle de ce virus de l'indifférence. On dit souvent que le contraire de aimer, c'est pas haïr, en fait. Haïr, c'est un sentiment d'amour qui est tellement blessé qu'il se retourne contre l'amour. Mais il n'est pas aussi... Enfin, c'est dur d'haïr, mais le contraire d'aimer, c'est être indifférent. Tu n'existes, tu n'as pas d'existence pour moi. Tu es un néant. C'est ça, là, être indifférent à l'autre. Tu n'existerais pas, ça serait, rien ne changerait. Or, ce n'est pas possible de dire ça. Chacun a sa place. Donc, l'indifférence, c'est un vide intérieur. Nos masques, par exemple, c'est vrai, dans la rue, le matin tôt, il y a un peu d'obscurité, un peu de brouillard, avec un masque en plus, mais on est des véritables zombies. On ne se reconnaît plus, on ne sait pas qui est là, on n'a même pas envie de dire bonjour aux gens, ce que j'aime faire moi-même spontanément quand je croise un inconnu. Là, c'est vraiment un empêchement. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour se connecter aux autres et bien sûr, refuser absolument ce virus de l'indifférence qui nous fera du mal.
Ouais. Il nous reste, une petite minute trente. Est-ce que vous pouvez nous parler de la veillée de Noël que vous avez célébrée chez les Sœurs de Saint-Paul ? C'est un merveilleux moment, avez-vous écrit dans votre message fraternel ?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir 4 messes de Noël, une à la prison de Châteaudun l'après-midi du 24, et puis le soir à 20h chez les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. C'est une très belle communauté de sœurs qui est donc rue Saint-Jacques, et parmi lesquelles il y a des jeunes sœurs, notamment qui sont vietnamiennes, et durant la veillée qui précédait la messe, il y a eu un beau moment de spirituel, de chant, de prière, de message sur Noël, et aussi il y a eu trois moments de chant gestué. Est-ce que c'est une danse ou est-ce que c'est une sorte de d'expression artistique, en tout cas très délicate, avec des rubans de très très prenant. En tout cas, j'ai vu cette communauté de jeunes femmes comme de sœurs âgées, comme vraiment réunies dans une joie communicative que j'ai ressentie, qui m'a fait très plaisir avant de venir célébrer la grand-messe de minuit à la cathédrale. Et je me suis dit que c'était pour moi un cadeau de Noël d'être avec elle. Oui.
C'est la chaleur de la foi, la chaleur particulière.
La chaleur, la joie, la simplicité. C'était pas un grand spectacle clinquant, quoi. C'était pas Jean-Michel Jarre à la Tour Eiffel, quoi. Mais c'était beau, oui.
Oui. Alors j'aurais voulu vous interroger sur cet appel que vous lancez pour de nouveaux prêtres, de nouveaux prêtres pour l'Église. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Ouais.
Et puis on parlera peut-être de votre bilan personnel depuis... Donc ça fait 2 ans et demi que vous êtes évêque ici. On parlera de ça aussi.
Avril 2018. Avril 2018.
Merci beaucoup, Monseigneur. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez, je vous le rappelle, réécouter cette émission sur le site de Radio Rancière, www.radiorancière.fr. Et merci à Simon Martin en régie technique.